Sirène venait de retentir, annonçant l'aube. 100 ouvriers, hommes et femmes, s'apprêtaient à prendre leur poste, tandis que 100 autres avaient travaillé la nuit entière, quittaient lentement leurs machines. Notre usine, la dernière en activité à des milliers de kilomètres à la ronde, fabriquait du matériel de guerre. Il y régnait un bruit permanent, poutrelles de métal qu'on cogne, qu'on perce, qu'on coupe, grincement des treuils et des palans, souffle des pneumatiques et bourdonnement des moteurs. Tout cela se répercutait contre les piliers qui soutenaient l'immense voûte de la salle des machines. Dans quel but travaillons-nous? Pour quelle guerre? Nous l'ignorions. Nous obéissions seulement à des règles confuses, offrant la force de nos bras à d'invisibles capitaines d'industrie qui ne parlaient pas notre langue. Seul comptait le salaire que nous touchions à la fin des semaines. Extrait de Tant que nous sommes vivants, d'Anne-Laure Bondou. Mais c'est pas tout à fait du roman dont nous parlerons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons avec Frédéric Biel de l'adaptation en BD de ce roman. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Au sommaire de cette émission, vous l'aurez compris, nous parlerons bande dessinée, nous parlerons Tant que nous sommes vivants, nous parlerons art de manière générale, parce que d'une idée à l'autre, nous aurons l'heure devant nous pour échanger. Vous aurez également l'occasion durant cette émission de retrouver notre répondeur téléphonique. Nous retrouverons Les temps changent de Martine Bourg qui nous fait maintenant ses chroniques hebdomadaires. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'actualité et les sorties qui se passeront sur Évreux et ses alentours sur ce week-end par exemple. Il est à la porte de notre... Il nous est accessible ce week-end. Il est au bout de nos doigts à la fin de cette journée. Nous vous proposerons un tour non exhaustif, bien entendu, de ce qu'il se passera. Entre deux, de la musique, de la bonne humeur et puis tout ce qui viendra perturber le bon déroulement de nos affaires, mais tout de suite pour commencer, Change is gonna come. I was born by the river in a little tent. Like the river I've been running, running ever since. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm a to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it is. Then I go to my brother. Ooh. And I say, brother, buddy.
It's been a long, been a long, a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it is,
yes it is, yes it is. I know that a change is gonna come one day.
I know a change gonna come. Yes, it is. I know.
So life can be hard. Oh yeah. And times can get rough, but still.
Je pouvais pas m'empêcher de partager ce morceau avec vous ce matin, comme on le disait hors micro avec Frédéric. C'est cette puissance dans le calme en fait.
Ouais.
Et ça fait du bien.
Pour le matin, c'est parfait.
Voilà, on aura l'occasion également d'aller faire un petit tour du côté de ta propre programmation, Frédéric. Mais ça, ce sera dans un instant.
D'accord. Ouais, salut la matinée.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah là, t'es mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et sur 95.9 dans le sud du département de l'Eure et sur le 99.1 du côté de Rouen avec HDR. Vous nous avez pas laissé de message. J'ai bien écouté, j'ai retourné la boîte dans tous les sens, je l'ai secoué, voir si un message n'était pas resté collé au fond. Eh bien non, il n'y en avait pas. Mais c'est pas grave, si vous n'en avez pas, nous, on en a un à vous faire écouter.
Hey, ça fait 20 ans que nous sommes à vos côtés et que vous êtes aux nôtres.
Et ça se fête.
Alors, prends ton téléphone et chante-nous une chanson.
Laisse un message, une poésie, l'histoire de notre rencontre.
Qu'est-ce qui t'a marqué sur ces 20 ans?
Moi, je réfléchis.
Amis auditeurs, amis auditrices, soyez créatifs et lâchez-vous.
Non.
T'as juste à laisser un message, quoi. 02 32 62 57 32.
Vos messages seront compilés et diffusés pour la grande fête du 21 mai.
Et ben voilà, vous l'avez entendu, le 21 mai, c'est Principe Actif qui va fêter à l'antenne ses 20 ans. Et là, on fait appel à vous, laissez-nous des messages. Qu'est-ce qui s'est passé durant vos 20 années? Est-ce que la radio vous a accompagné? Avez-vous des anecdotes, des souvenirs ou que sais-je? Partagez avec nous, eh bien, cette fête d'anniversaire. Vous pouvez même nous chanter une chanson, hein, aucun problème. Elle sera diffusée le 21 mai lors de cette grande fête de nos 20 ans. 20 ans, peut-être qu'un jour, c'est l'âge de raison qui nous arrivera. Hein, on sait jamais, hein, à force d'insister, peut-être que nous aurons ça au bout d'un moment. Il est l'heure de retrouver notre chroniqueuse de l'histoire, celle qui nous raconte que les temps changent. C'est l'heure de retrouver la chronique de Martine Bourg. Les temps changent.
Les temps changent.
Les oiseaux migrateurs.
Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur? Non, ce n'est pas un oiseau qui se gratte la moitié du dos. C'est un oiseau qui voyage beaucoup, sans GPS ni valise à roulettes. Il part en vacances tous les ans au même endroit. Mais où vont ces volatiles? Où va-t-elle l'hirondelle? Maintenant qu'il fait chaud un peu partout, pas facile de trouver un coin de paradis bien joli. Et puis, le monde change si vite qu'il arrive que le havre de paix où ils ont toujours hiverné soit devenu un centre commercial tout juste sorti de terre ou un data center tout neuf. 2000 kilomètres pour rien, ça décourage. Regardons cette famille de Martinet faire ses préparatifs pour partir en Afrique. Bon, Fifine, t'es prête ? Non, je retrouve plus mon gilet pare-balles. Je l'avais prêté à Alouette pour la saison de chasse. Ah, elle ne te l'a pas rendu ? Si, si, je crois. Ah, le v'là. Alors, allons-y. Maman, on vient de détecter une petite fuite à la centrale nucléaire du Tracassin. On va passer juste au-dessus. Ah, ils vont pas nous embêter à présent avec leur radioactivité. Bon, faisons le point. La radio, on connaît, c'est notre principe actif. Et l'activité, si on en ramasse un peu plus pour ce voyage, c'est pas plus mal. Arrêtons de nous tracasser avec ce tracassin. Quand c'est l'heure de la migration, c'est l'heure de la migration. En route.
Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Nous sommes avec Frédéric Biel qui vient aujourd'hui nous parler de « Tant que nous sommes vivants ». C'est l'adaptation du roman de Anne-Sophie...
Anne-Laure.
Anne-Laure, pardon. Oh là là, je vais pas y arriver. J'ai tout écrit bien comme il faut et je retrouve plus mes notes. C'est assez terrible, cette histoire. Anne-Laure Bondou, c'était un roman sorti en 2014, qui s'adresse, on va dire, à partir d'un jeune public, parce qu'il est écrit de manière assez simple, de manière
adolescent-adulte. Bon lecteur jusqu'à l'âge adulte, oui.
Oui, tout à fait.
Il y a plein d'adultes qui l'ont lu, hein. Oui.
Et puis aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais mercredi le 4 mai, est sortie la BD des mains de Frédéric Biel, l'adaptation et l'illustration par tes soins.
Et oui, c'est une grande première pour moi parce que je suis plutôt connu comme en tant que dessinateur. Même si effectivement le dessinateur ne fait pas que dessiner, il travaille sur un scénario, mais c'est pour ça que ça faisait quand même pas mal d'années que ça me démangeait de mener un projet de bout en bout, voilà, et d'en être l'initiateur. Alors qu'autrement, je me retrouvais un peu, comme je le dis souvent, au service du désir d'un autre, ce qui peut être très très bien, mais j'avais envie au moins, en tout cas, d'essayer, voilà.
Donc, tant que nous sommes vivants, sorti chez Futuropolis, disponible dans nos librairies locales notamment, mais pas seulement d'ailleurs, toutes les librairies.
Hein, voilà. Comme on dit souvent aussi, ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Voilà, le petit clin d'œil, c'est qu'elle est disponible à BD Libre, sur Évreux. C'était le petit clin d'œil plus local,
BD
mais nos amis rouennais le trouveront.
L'Oiseau Lire et Funambule, Rouen, enfin voilà, toutes les librairies, de toute façon, a priori, toutes les librairies BD, c'est sûr. Et la plupart des librairies généralistes. Ouais, voilà.
Tant que nous sommes vivants, je le disais, adaptation du roman d'Anne-Laure Bondou. Quelle a été la rencontre, toi, avec ce roman ? Pourquoi, au bout d'un moment, Frédéric Biel se retrouve à s'approprier Tant que nous sommes vivants et en faire une bande dessinée ?
Alors, en fait, là, la rencontre est tellement... Enfin, en tout cas, pour moi, a été singulière en plusieurs temps. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fini par écrire un petit texte un peu en préliminaire, quoi. Donc, qui se retrouve en tête du livre. Parce que j'avais rencontré, en fait, Anne-Laure Bondou il y a longtemps, grâce à Annie Falzini. pardon, qui était la libraire qui avait créé et animé pendant pas mal d'années l'Oiseau-Lire première période. Et elle l'avait invité, Anne-Laure, donc lors d'une rencontre, là je l'avais rencontrée, mais comme ça quoi. Bon, on avait quand même discuté après, parce qu'il y avait eu un dîner chez Annie. Et puis, je sais plus si c'est avant ou après, mais vraiment de façon assez rapprochée, je l'avais aussi rencontré à Toulon lors d'un salon du livre, où souvent les organisateurs rapprochent les auteurs de bande dessinée et les auteurs jeunesse. On pense qu'ils vont bien ensemble, parce que n'est-ce pas, la bande dessinée, c'est pour les enfants. Donc, ce qui fait que là, je l'avais un peu rencontré. Et c'était d'ailleurs vraiment l'année de la sortie de Tant que nous sommes vivants. Je me souviens vraiment de cette couverture d'Hélène Druver, parce que c'était, il faut le citer, c'est une édition Gallimard Jeunesse. Et il y a cette couverture très frappante, tout en ombre chinoise, ce qui a un sens par rapport au contenu du roman. Et des années après, c'est là le côté un peu singulier, c'est que je voulais vraiment à tout prix, quitte à adapter un roman, que ce soit un certain livre de Jean Giono, qui s'appelle Un roi sans divertissement, qui est un roman très sombre, très beau, voilà, et que j'avais vraiment envie d'adapter. J'ai finalement découvert que je ne pouvais pas le faire, parce que les droits étaient pris. Et ma compagne, Cécile, bien connue de ses ondes, est allée à l'Oiseau-Lire, et Annie lui a conseillé ce livre-là. Voilà, Tant que nous sommes vivants. Et je l'ai lu, ça m'a beaucoup plu. Comme je l'écris dans la BD, ça m'a effectivement fait du bien. Bon, mais j'ai pas pour autant imaginé l'adapter. Mais c'est finalement quand j'ai un peu fait le point sur les projets que je pouvais mettre en œuvre, les projets personnels, que cette idée est revenue. D'ailleurs, je crois que c'est encore Cécile qui m'a soufflé cette idée. Et là, je me suis mis à. J'ai recontacté Annie Falzini, qui m'a donné les coordonnées d'Anne-Laure. Et ça s'est fait ensuite très facilement, mail, coup de fil, on s'est rencontrés juste avant le premier confinement, on s'est rencontrés à Paris en février 2020. Et puis j'ai commencé à travailler sur ce projet, Futuropolis a été d'accord assez rapidement pour l'éditer, voilà.
Alors une fois que la rencontre est faite, que le lien est calé, il y a l'adaptation en elle-même. En quelques mots, Tant que nous sommes vivants, c'est une histoire d'amour entre Beau et Anna.
Ama.
Sur le roman, tout part d'un univers, on va dire, industriel. On le resituerait presque au XXe siècle.
Oui.
Je le verrais plutôt là-dedans.
Début XXe, ouais.
L'industrialisation. Oui. Les usines qui tournent.
Oui.
Et puis se passe un drame, je vais pas trop en dire, hein, pour que les lecteurs le découvrent.
Oui, c'est un peu au cœur de tout ce qui se passe quand même. Dans le roman comme dans l'adaptation que j'en ai faite. Oui.
Il se passe un drame et qui oblige à l'exil Ama et Beau. Qui vont rencontrer d'autres personnes, bien entendu. Oui. J'essaie de pas trop en dire tout en donnant un cadre.
Oui.
Et là, c'est une grande aventure, c'est un conte quasiment qui est raconté, quoi.
Oui.
Comment on s'approprie ce type d'histoire, de conte, et comment surtout, au-delà de se l'approprier, le restituer un petit peu un peu différemment en tout cas, avec sa patte.
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que je suis resté, même alors que je sais pas quand je l'ai lu, en fait, je sais plus quand Cécile me l'avait offert, mais mettons 2017, 2000, je sais pas, peut-être 2018, donc voilà, mettons 2 ans avant. Là je suis un peu parti d'une façon un peu intuitive, c'est-à-dire qu'il y a un passage, un moment dans le roman qui m'avait vraiment marqué. Qui n'est pas au début du roman, qui est plutôt vers le milieu, ou voilà. Et j'ai décidé de commencer par ça. Voilà. Ça, c'était vraiment l'idée de départ, l'idée directrice. Quand j'ai eu Anne-Laure Bondou au téléphone, donc je sais pas, peut-être courant janvier 2020, je lui en ai parlé tout de suite. Et elle m'a dit, mais oui, pourquoi pas. Enfin, elle était prête à partir du moment où elle était d'accord. Elle a pas du tout influé mes choix. En fait, elle m'a fait confiance. Et voilà, je lui dis, écoute, je vais pas commencer par le début. Je vais commencer par raconter justement ce moment où les deux héros, Beau et Ama, arrive dans cette forêt et où finalement il donne naissance à un bébé. Bon, parce que finalement ça me semblait, j'ai déjà que le roman se situe, on va dire que c'est en gros, on a la plupart du temps le point de vue d'un enfant qui nous raconte cette histoire, on le découvre après et qui nous parle de la vie de ses parents. Donc j'ai décidé d'appuyer sur cet aspect-là. Simplement en démarrant le roman par la naissance de cet enfant. Et puis l'aspect conte dont tu parles, je l'ai appuyé aussi parce que là finalement moi j'ai l'image dans ma trousse à outils quoi. Je démarre par l'image d'une forêt de conte vraiment avec des arbres très 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 anciens dans cette forêt. Et là je peux le dire, il y a pas de spoil, une forêt, et on découvre assez vite une grotte, et dans cette grotte, un couple, et au milieu de ce couple, un bébé. Bon, donc on est vraiment dans un récit primordial, quasiment dans un mythe. Hein. C'est vraiment la naissance d'un personnage qui pourrait être ensuite un héros ou une héroïne fabuleuse, c'est presque la naissance d'un dieu, quoi. Et en fait, c'est la naissance de l'héroïne finalement de cette histoire dont on va suivre un petit peu le récit et dans les deux sens, c'est-à-dire avant sa naissance et après. Donc voilà, c'est vraiment, je suis parti de cette impression qu'il fallait démarrer par sa naissance et par donc son séjour. Là, je ne sais pas trop ce qu'on peut en dire, mais ça, j'en ai un petit peu parlé par ailleurs, mais par puisqu'ils sont recueillis très 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 rapidement au sein de cette forêt par un petit peuple qui vit dans les souterrains de la forêt. Et c'est ce moment-là qui m'avait moi vraiment vraiment marqué. Donc je suis parti de ça. Voilà. Et j'ai même vraiment il y a une bonne partie de la bande dessinée qui se passe avec ces gens, voilà. Parce que c'est le moment où peut-être, je sais pas, c'est ce qui m'a le plus parlé, ce qui m'a semblé le plus chaleureux. Je ne sais pas bien. Là, on est dans une décision qui est d'ordre inconscient. Après, évidemment, le travail d'adaptation, ça a été de partir de cette intuition et d'en faire un récit qui fonctionne. Voilà.
C'est tout un boulot de scénariste en fait qui oui. Commence à partir du moment où quand tu te réappropries l'œuvre, tu dis je démarre plutôt là.
Oui.
Ce qui n'empêchera pas de revenir sur ce qui se passe avant dans le roman durant cette bande dessinée.
Oui.
Et c'est évidemment partir sur tout d'abord un scénario en fait, c'est repartir d'une histoire et en faire un scénario pour la bande dessinée.
Oui, c'est ça.
Dans le rythme aussi, on retrouve à travers le dessin, mais ça on y reparlera un petit peu plus tard, ta patte, ton trait, on retrouve quand même une ambiance qui est posée dès le début du roman aussi de Anne-Laure Bondou. Il y a vraiment une ambiance, il se passe quelque chose en fait, oui. On est dans un univers.
Ah oui.
Et ça c'est essentiel j'imagine de définir et les couleurs et les décors et toute cette ambiance. J'imagine qu'elle avait déjà dû peut-être naître dans ton esprit à la lecture du roman.
Oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, et là, la chance que j'ai eue, c'est que par rapport au projet de départ qui était d'adapter un roman de Giono, il y a un tout petit problème avec Giono, c'est qu'il est mort. Voilà. Alors que Anne-Laure, elle est bien vivante et j'ai pu la rencontrer. Voilà. Et on a pu passer un bon moment donc à Paris dans une brasserie, vraiment le bistrot parisien. Et on est resté longtemps. On a déjeuné et on a beaucoup beaucoup parlé. Et elle a pu me parler de ce qui l'avait inspiré pour cette histoire. Et elle aussi finalement, elle est partie d'images, d'éléments autobiographiques, de souvenirs, enfin de tout un tas de choses très profondes. qui viennent de très très loin, et même de sa propre histoire. Moi, j'ai pu lui parler de ce que ça m'avait effectivement aussi fait remonter. Donc, on a un peu comparé, on a fait dialoguer nos deux imaginaires et ils étaient parfaitement raccord. Alors que ils étaient différents, mais ils fonctionnaient bien ensemble. Et ce qui fait que elle a été complètement rassurée, et moi aussi, en fait. Et je suis vraiment partie de ça. Je me suis dit, bon, ça va, je suis pas complètement à côté de la plaque dans mon interprétation, parce que c'est une interprétation. Les lecteurs, quand ils lisent ce livre, peuvent en avoir une autre, hein, et c'est normal. Moi, c'est vraiment ma lecture de ce roman. Et surtout que c'est une histoire qui brasse énormément de thèmes quand même. Hein. Là, dans le passage que tu as lu, qui est vraiment le début, on parle d'une usine d'armement. Je sais pas si on dit que c'est une usine. Voilà. Donc c'est une usine d'armement. C'est tout un imaginaire ouvrier, avec en plus des gens qui disent nous. Enfin bon, c'est très très collectif. Alors on est vraiment dans tout un imaginaire. Alors elle dit
par ailleurs notamment le moment où ils se croisent, l'équipe de nuit, l'équipe de jour. On a l'impression de vivre ce moment. On a l'impression de vivre.
Il y a ce passage qui est primordial, parce que c'est là qu'aura lieu la rencontre entre deux membres, un membre de l'équipe de jour et un membre de l'équipe de nuit. Mais il y a cette idée que c'est l'usine qui est en même temps la dévoratrice du travail des ouvriers. Il y a tout un imaginaire là que ça réveille. Moi, j'ai même pensé à Metropolis de Fritz Lang, et évidemment Zola, mais elle, je sais qu'elle y a pensé. Elle a pensé à Germinal, dans le côté effectivement collectif des ouvriers, la ville.
Et puis le sens du travail qui est questionné.
Les machines, moi je sais qu'après j'ai beaucoup regardé et j'ai beaucoup aussi collecté sur internet des images d'usines, même des tableaux, des gravures, des photos. Ça m'a énormément nourri, ça, parce qu'il y a, c'est extrêmement visuel. C'est quelque chose de là, quand on voit un haut fourneau ou un marteau pilon géant, on se dit que c'est les forges de Vulcain. C'est quelque chose d'absolument gigantesque. Bon, mais en même temps, c'était pas mon angle de vue. Donc, je montre assez peu l'usine. Elle reste un peu comme une sorte de hors champ, presque hors champ.
Parce que c'est l'ancienne vie aussi.
C'est ça.
Tant que nous sommes vivants, l'objet n'est pas l'usine, très clairement.
Oui.
C'est le passé, presque. Même dès le début, c'est déjà le passé.
Tout à fait.
C'est la référence du passé.
Oui, puisque c'est la dernière usine. Ça, on le dit dans les premières lignes, dans les premières pages du roman. C'est la dernière usine à la ronde. Donc, il y a aussi quelque chose qui est en train de disparaître. Pourtant, la guerre se porte bien, on le voit tous les jours, et elle se porte bien depuis longtemps, et elle se porte bien aussi dans le roman, puisqu'elle revient comme une espèce de malédiction, et elle vient se heurter au parcours des héros, et d'ailleurs elle est venue se heurter à différents niveaux quand Anne-Laure a écrit ce livre, quand moi j'en ai fait l'adaptation. Il y a des tas d'événements comme ça qui sont venus, disons, le réel est venu se heurter à cette histoire et l'a aussi nourri.
Je te propose que nous écoutions un morceau de Bernard Lavilliers, Les Mains d'Or. C'est toi qui es venu avec.
Oui.
Et on l'explique juste après pourquoi.
Parfait.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je ne sers plus à rien, moi. Y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Bernard Lavillier, Les Mains d'Or, ça fait partie de la playlist de Frédéric Biel qui est avec nous ce matin à l'occasion de la sortie de l'adaptation en BD de Tant que nous sommes vivants. Alors c'est vrai que quand on connaît l'histoire de Beau et Ama, on voit bien comment Les Mains d'Or ont pu faire partie de la playlist. Mais pour les auditeurs peut-être qui n'ont pas encore découvert cette histoire de Tant que nous sommes vivants, quel est le lien? Alors, on voit bien Beau hein, dans cette notion des mains d'or. Ça parle des forges, ça parle du travail pénible aussi, oui. De cet effort, oui, du travail. Comment elle s'est retrouvée dans cette playlist alors de Tant que nous sommes vivants?
C'est vrai que j'ai fait une playlist pour moi.
Quand tu travailles, c'est voilà, ça?
Oui. Là, pendant le, je l'ai pas fait pour tous mes livres, loin de là. Je pense que l'idée m'est vraiment venue là pour ce livre-là. Pour ce travail, j'ai fait une playlist au fil des mois et j'ai mis au bout du compte une quarantaine de titres et c'est des choses extrêmement variées. Et cette chanson-là est venue tard. Elle est venue, je ne sais plus, début d'année 2022 parce que j'ai fini le chantier, on va dire, j'ai fini le chantier. De Tant que nous sommes vivants, en mi février 2022. Mais j'avais fini le dessin en, je sais plus, janvier, enfin voilà. Et Les Mains d'Or, j'ai entendu cette chanson-là complètement par hasard à la radio, je ne la connaissais pas, mais ça m'a tout de suite, frappé parce que il y a des mots, en fait, des mots clés, la mie noire, travailler, les mains d'or,
le fer rouge, voilà.
Et je me suis dit, donc je l'ai réécouté après, hein, c'est l'intérêt avec maintenant le streaming, on peut aller chercher un peu, Et je me suis dit que c'était vraiment la chanson du personnage de Beau, avec tout l'imaginaire en plus que charge avec lui, que porte littéralement sur ses épaules Bernard Lavilliers, dont je ne suis pas par ailleurs un fan absolu, mais régulièrement, il y a une de ses chansons comme ça qui me frappe. Et là, vraiment, c'était ça, c'est cet imaginaire ouvrier, lui, c'est Saint-Étienne, je crois. C'est la chanson là de cet ouvrier qui dit qu'il veut travailler, c'est vraiment Beau, parce que Beau, dans le couple dont on parle, c'est un forgeron. Voilà, donc l'univers de la forge, on parle de l'usine là qui fabrique des armes dans le passage que tu as lu tout à l'heure, mais ce thème de la forge va être vraiment décliné dans toute l'histoire, parce que c'est un ouvrier forgeron, mais c'est un forgeron tout court. Voilà, et il incarne vraiment le forgeron, celui qui triture les métaux et qui en fabrique peut-être de l'or. Voilà, et lui, en tout cas, c'est vers ça qu'il tend, il veut faire de l'or. Et à un moment donné, il va fabriquer des objets qui sont des mains et qu'il aurait aimé être des mains d'or. Voilà. Donc, cette chanson venait d'une façon quasiment miraculeuse, illustrait, presque enluminait cette histoire. Et donc, elle m'a semblé parfaite pour ce matin.
Elle était parfaite pour ce matin, effectivement. Dans le dont on a parlé, donc de ton travail qui a scénarisé, qui s'est approprié cette histoire de ton que nous sommes vivants. On a parlé du dessin, mais on s'y attarde juste un peu plus longtemps dans quelques instants.
Oui.
Mais voilà, il y a tout le travail. Quelle est l'ambiance de travail de Frédéric Biel? C'est le matin, c'est la nuit, c'est le midi. Et dans quelle ambiance? On veut savoir un peu comment ça se passe
d'accord,
dans l'atelier.
D'accord.
On veut être la petite souris qui te regarde travailler.
D'accord. C'est plutôt le matin, tôt, en fait. Je suis plutôt du matin que du soir, contrairement, je pense, à Bernard Lavilliers. Donc, plutôt le matin, la radio très, très tôt. Puis après, suivant ce que je suis en train de faire, si j'écris, si je dessine, si je mets en couleur, je mets pas de son. C'est plutôt quand je suis en train de réfléchir à des problèmes de scénario, d'écriture. Là, je mets rien parce qu'il faut pas que je sois déconcentré. Il peut y avoir la radio. Il peut y avoir donc certaines musiques. Voilà. Donc ça c'est pour l'ambiance. C'est des petites lampes. Bon, évidemment ma lampe à dessin, deux trois petits éclairages. Je travaille plutôt dans une sorte de pénombre. Ça va, je ne travaille pas dans le noir quand même, mais bon, voilà.
Mais c'est pas éclairé au néon, quoi.
C'est pas éclairé, non, ça, non, jamais, non. J'aime pas ça, en fait, j'aime plutôt les petits spots comme ça. Et puis voilà, quoi. Après, ça peut être dessiné, je vais aller voir un truc dans un bouquin. Enfin, je crois que je suis un peu. C'est Pratt qui disait que. Au début, quand il travaille sur une histoire, il butine comme un papillon, et après il travaille comme une abeille, quoi. Enfin, je sais plus comment c'était, mais il y avait un côté comme ça. Il y a toujours un aspect comme ça. Là pour l'album que je suis en train de faire, je pense que je sors de plusieurs semaines de gros doutes, parce que là, je me suis remis après avoir terminé Tant que nous sommes vivants, j'ai repris un autre chantier. Qui était en fait un chantier que j'avais interrompu. Bref, je passe les détails parce que je faisais deux albums à la fois. Donc il y en a un que j'ai privilégié pour le terminer, pour qu'il puisse sortir là début mai. Et puis il y en a un autre que j'ai en route pour un autre éditeur qui lui va finalement sortir début 2023. Voilà. Mais que je dois avoir fini à la fin de l'été. Donc là, je m'y suis remis Et il a fallu que je me remette dedans. Je l'avais interrompu au bout de 20 pages. Donc là, c'était un travail. Là, c'était ce que je viens de faire, c'est que j'ai repris un peu tout ce que j'avais déjà fait. J'ai réfléchi, j'ai réécrit, rayé, bi. Donc là, c'était très, très. C'était un travail un peu de je sais pas comment appeler ça. J'avais l'impression que je faisais un peu du sur place, quoi. Et tout en avançant, quoi. Voilà. Donc c'était un peu une marche de crabe, dont j'espère je sors pour être plus dans une phase un peu plus productive, voilà.
Alors la table à dessin de Frédéric Biel, elle est comment? C'est un joyeux bazar.
Oui, c'est un joyeux bazar.
Avec plein de couleurs, plein de crayons.
Pas forcément joyeux.
Tout ça travaille en numérique ou ça travaille comment en fait?
Alors là, pour le coup, vraiment là, habituellement, oui, quand je suis dans la phase de mise en couleur, c'est des aquarelles. Alors en même temps, l'aquarelle est une technique relativement, enfin, qui prend assez peu de place, qui est assez propre. Enfin bon, voilà. Donc, mais là, en l'occurrence, non. Ce qui prend beaucoup de place, en fait, c'est tous les bouquins et tous les papiers que j'ai autour. Parce que là, j'ai un simple bureau avec une planche inclinée qui tient sur deux cale-portes. Voilà. C'est un truc que j'ai piqué à un collègue qui s'appelle Daudier, là, qui travaille comme ça et c'est très bien. La planche. Les deux cale-portes, ce qui fait qu'on travaille sur un plan un peu incliné, mais le tout est sur un simple bureau. Et là, en ce moment, il y a vraiment la planche avec une petite table lumineuse qui me permet quand même de travailler parfois par transparence les planches, retourner la feuille, de voir le dessin à l'envers, tu vois. Donc ça permet de le voir sous un angle nouveau et la retourner ensuite. Et bon, bref, voilà. Ça, c'est une petite cuisine. Et autour, c'est un océan, un magma à la fois de documents imprimés, de textes, d'images que je suis allé collecter partout, de livres ouverts. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment le bazar, là. Ouais. Enfin, voilà. Mais c'est un bazar industrieux. Voilà.
Sur les couleurs, tu me disais juste avant que tu avais bossé en numérique pour la première fois.
Là, j'ai travaillé sur iPad, sur un logiciel qui s'appelle Procreate, parce que j'avais vu faire ça par quelques collègues. Je savais que même des collègues à aquarellistes commençaient à s'y mettre. Et puis, j'ai une de mes anciennes élèves qui s'appelle Victoire Le Dourneur, une ancienne où est-ce que je donne des cours à la Maison des Arts, et qui m'avait montré ça, cet iPad Pro là qu'elle avait, elle depuis déjà quelques, elle m'a montré ça il y a quelques années. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et donc c'est elle d'ailleurs qui m'a montré les bases de la mise en couleur numérique, parce que je n'y connaissais absolument rien. Et elle m'a refait un petit topo là début février, quand je me suis mis à faire la mise en couleur, et ça a été génial. J'ai travaillé pendant 15 jours pour faire les 136 pages. Outre que c'est plus rapide que l'aquarelle, ça m'a ouvert des possibilités. Avec cette contrainte quand même qui était de ne pas me perdre dans toutes les fonctionnalités de ce type de logiciel. Sinon, on peut très bien passer des mois sur une page, quoi. Ça n'a aucun sens. Disons que je me suis donné quelques contraintes, ne serait-ce que les contraintes de productivité, parce qu'il fallait que j'ai fini mi-février. Donc, je faisais une dizaine de pages par jour. Mais les possibilités de ce type de logiciel, c'est vraiment génial, quoi. Voilà.
Donc, ce qui donne des tonalités par case, par ambiance, alors, je sais pas si c'est la technique en elle-même qui le permet peut-être plus de le souligner ou pas, mais là, on a l'album dans les mains.
Oui.
Y a vraiment des tonalités par case, par ambiance.
En fait, c'est ce que
y a presque un code de ressenti.
Oui, mais j'ai plus fait une forme d'éclairage de mes dessins, parce qu'en fait, que j'avais déjà, j'ai fait les planches et donc sont faites au crayon, alors crayon porte-mine, crayon à papier, crayon de bois, encre, bon, et la vie, et donc il y a déjà un gros travail sur le plan des valeurs, de l'ambiance, bon. Ce qui fait que la mise en couleur a été plus un éclairage. Il ne s'agissait pas de peindre par-dessus les dessins, mais il s'agissait plutôt de les illuminer, de les éclairer, donc de créer plutôt des ambiances, en fait, chaleureuses, plus froides, plus inquiétantes, voilà. Et surtout que il y en a pas mal des ambiances quand même dans cet album, enfin dans cette histoire, et c'est ce qui était assez chouette. Et il y a une sorte de souplesse dans le fait de pouvoir manipuler l'écran avec les doigts. Je mettais en couleur avec un stylet, quoi. Donc c'était assez intuitif. Ça me rappelait quand même un peu le travail du crayon, même vraiment. Et puis ensuite, ce que j'ai trouvé génial, c'est que à l'impression, quand j'ai découvert le livre, j'ai retrouvé exactement ce que j'avais fait. Plus que quand je fais une mise en couleur à l'aquarelle, où là, quand même, il faut scanner, transformer ces couleurs qui sont des pigments posés sur du papier, on les transforme en encre. Bon, là, il y a quelque chose de plus évident, parce qu'on part d'un fichier numérique et qui arrive directement sur les tables de l'imprimeur. Et quand c'est bien fait, bah c'est beaucoup plus fidèle. Donc là, j'ai vraiment retrouvé exactement ce que j'avais fait sur ma tablette. Donc je suis hyper content, au moins du rendu graphique. Voilà, de ce que ça donne.
Tu l'évoquais il y a quelques instants que c'est une des élèves de la Maison des Arts, oui. J'imagine, oui. Où tu es professeur, oui. qui te file les tuyaux. Oui. Il y a cet aspect aussi, Frédéric Biel, tu es professeur de dessin à la Maison des Arts Solange Baudou à oui. Évreux. Oui. On t'a vu également sur notamment les maisons de quartier bruyciennes oui. apporter de l'accompagnement à la réalisation de BD avec des enfants, avec des oui. ados, des adultes.
Oui, oui.
Est-ce que quelque chose, parce que souvent le dessinateur, l'illustrateur est isolé quand oui. il travaille. Là, c'est au contraire le contact avec du public. Oui. Est-ce que c'est important, ça, ce contact, cette transmission, cette notion d'échange?
Ça l'est devenu, ouais. Ouais. Ça l'est devenu parce que moi, je suis prof à la Maison des Arts depuis 2005. Mais honnêtement, avant, jamais j'aurais imaginé donner des cours. D'ailleurs, je n'étais pas du tout le profil, moi, quand j'étais ado ou enfant, jamais j'aurais mis les pieds à la Maison des Arts. Jamais. Alors qu'elle existait, quand j'étais ado, j'aurais pu y aller. Mais ça me serait pas venu à l'idée. Moi, j'étais très bien dans ma chambre avec mes feuilles et à faire mes petites BD. Jamais j'aurais eu l'envie d'aller. Bon, et je me retrouve de voir accompagner effectivement des enfants, des ados, des adultes avec leurs doutes d'ailleurs, avec leur questionnement. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse le plus d'ailleurs. C'est pas de leur asséner un discours sur la bande dessinée ou sur le dessin en leur disant c'est comme ça qu'il faut faire, c'est essayer d'accompagner des parcours individuels, quoi, vraiment, et chaque personne, que soit une petite fille de 8 ans, un adulte de 80 ans, et de le prendre là où il en est, et puis de l'accompagner, en fait. Et donc là, je me suis découvert un véritable intérêt pour cette démarche. D'ailleurs, ça a des conséquences sur mon travail, et la plus évidente, c'est que c'est une de mes anciennes élèves qui m'a finalement permis de franchir un cap, d'abord parce qu'elle m'a montré cette technique, et puis ensuite parce qu'elle m'a montré comment m'en servir. Donc là, c'est une sorte de retour, enfin d'échange. Bon, et l'échange, il est à des tas de niveaux, même dans mon dessin, je vois bien, à force de voir, moi qui lis pas tellement de mangas, j'ai énormément d'élèves dont c'est vraiment la source d'inspiration principale. Et à force de voir leur dessin, de les voir évoluer, je sens bien comment ça finit par imprégner mon propre dessin. Parce que tout ça, c'est une question d'échange. D'ailleurs, c'est de ça dont parle aussi tant que nous sommes vivants. Ça parle de transmission, de racines. Ça parle de la manière dont pour parler des grands mots, mais dont le passé ensemence le futur. Il y a quelque chose de vraiment essentiel là. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me marque de plus en plus, enfin dont je suis de plus en plus conscient. Bon, c'est vrai que le fait que j'ai des enfants, je suis même grand-père depuis 2021.
C'est en préface d'ailleurs.
Voilà, donc j'ai dédié l'album à mon petit-fils parce que il est né pendant que j'étais en train de le faire, et il est né en plus au moment où je dessinais le bébé du livre. Enfin, ma fille était enceinte puis a accouché pendant, alors même que je dessinais ce bébé. Ça fait partie des choses comme ça qui sont venues un peu, où le réel est venu s'entrechoquer comme ça avec cette histoire. Jusqu'à effectivement que, puisqu'à la fin, je dessine beaucoup la guerre, parce que la guerre est très présente dans, aussi dans cette histoire comme dans le monde. Et l'album sort, je finis l'album le 15 février, 10 jours après, l'Ukraine est envahie, quoi. Donc il y a quelque chose, et je vois les villes détruites que j'ai dessinées, je les vois dans l'actualité, quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose de à la fois d'éternel, et puis on a l'impression que les solutions sont à réinventer à chaque fois. Voilà. Et c'est un peu ce que font les personnages.
Dans tant que nous sommes vivants, il y a aussi une espèce de poésie en suspension, une espèce de poésie permanente qui voilà, le voile, un voile poétique un petit peu, oui, à travers, oui, tout ce conte. C'est pour ça que au démarrage je disais c'est une histoire, mais c'est un conte. Enfin, je trouve qu'il y a une dimension autre juste une histoire.
Parce que je suis aussi vraiment évidemment énormément marqué par le ton du roman, et Anne-Laure Bondoux a une vision du monde qui est quand même très très poétique, très belle, très parce que j'ai lu d'autres livres d'elle, et notamment un livre qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle L'autre moitié de moi-même, qui est un livre autobiographique où elle parle d'une forme de dépression finalement qu'elle a traversée, avec un doute sur sa capacité à nouveau écrire, et de ce doute est sorti Tant que nous sommes vivants. Donc il y a vraiment quelque chose, ce livre est sorti d'elle, mais vraiment d'une façon très douloureuse, je pense, et en même temps comme une libération. Et elle a déployé tout son imaginaire, et ça venait de loin. Et je pense que forcément, moi c'est ce qui m'a aussi marqué, et en plus quand pendant tout le travail d'adaptation, même le travail de dessin, de Tant que nous sommes vivants, j'avais son roman ouvert, sur ma table, à la page de ce que j'étais en train de dessiner. Voilà. Donc j'avais sa prose, j'avais ses mots à chaque instant, qui m'accompagnaient. Voilà. Donc je pense que il y a évidemment mon propre regard sur la vie, sûrement, parce que c'est du dessin dont on parle. Donc c'est un peu comme un musicien. Sa musique, c'est quelque chose, ça parle de lui. En même temps, c'est un instrument, c'est une voie de transmission entre lui et la réalité et les autres. Et le dessin, c'est la même chose. C'est une sorte de chemin, en fait, entre soi-même et parfois un soi-même très, très profond et les autres. Bon. Et donc, là, il y avait vraiment la rencontre, je pense, entre, disons, la poétique d'Anne-Laure Bondoux et mon dessin. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui passe.
Justement, dans la rencontre avec Anne-Laure Bondoux et Frédéric Biel, le 20 mai, tu, oui, seras la journée sur la librairie Bédélib,
oui,
en échange dédicace, oui. Oui, sur l'après-midi, oui, en échange, oui, dédicace avec les lecteurs.
Oui.
Donc ça, c'est le 20 mai à Bédélib.
Oui.
Et puis, juste après, à l'Oiseau Lire, il y a là justement l'échange avec Anne-Laure Bondoux.
Elle sera là, oui, oui, à partir de 18h jusqu'à 20h. Enfin, à peu près 20h. Là, on pourra vraiment effectivement rencontrer le public. Annie Falzini sera là, parce que elle a un peu présidé à cette rencontre là, comme une sorte de.
Mais elle est toujours un petit peu partout.
Elle est là partout. Non, mais elle est là. C'est la pitié de Delphes. Elle est là comme ça, et elle est très très présente, et depuis longtemps. Moi, je connais Annie depuis 30 ans, quoi. Quand elle était bibliothécaire. Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a Évreux et ailleurs, parce que en tant que libraire, elle a rayonné sur toute la France. Hein. Il y a des tas de libraires jeunesse. Quand on leur parle d'Annie Falzini, ils voient très très bien qui c'est, quoi. Donc elle sera là aussi.
Porteuse encore d'ailleurs sur le territoire de l'agglomération ébruissienne, oui, du prix des dévoreurs de livres, du, oui, prix Janusz Korczak.
Tout à fait.
Voilà, elle est très active encore.
Exactement.
Même si,
oui,
elle,
oui,
est,
oui,
plus toujours au comptoir de la librairie, elle est encore très active.
Tout à fait, tout à fait. Non, mais ça c'est essentiel. Oui, oui.
Donc le 20 mai, ben, je rappelle, hein, les auditeurs qui souhaiteraient rencontrer Frédéric ou qui souhaiteraient rencontrer également Anne-Laure Bondou, eh bien c'est le 20 mai que ça va se passer, l'après-midi sur la librairie Bédéli pour échanger.
Voilà. Donc elle ne sera là que le soir, hein, voilà. Mais effectivement, on se réjouit tous les deux d'être là à partir de 18h à l'Oiseau Lyre.
On oublie quelque chose sur Tant que nous sommes vivants, cette adaptation que tu fais, qui est sortie le 4 mai, là, juste mercredi là, c'est tout frais, ça sent encore l'encre presse.
Ah oui, oui.
On a oublié quelque chose à dire, à ajouter.
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que justement la librairie Bédélib organise une exposition en fait dans ce que Didier Dupont. Son patron appelle l'atelier, donc c'est la galerie qui est à l'arrière de la librairie. Et donc là, il va y avoir, alors je crois que c'est à partir du 9 mai jusqu'au 4 juin, je crois que c'est à peu près les dates qu'il m'a donné, une exposition d'originaux, de tirages et même de certains objets. Le carnet, par exemple, le carnet de croquis que j'ai utilisé pour l'écriture de la première version du scénario et mes premières recherches graphiques pendant le premier confinement. C'est là que j'ai fait ce travail. Il sera là aussi. Et puis des objets, des croquis, des voilà. Donc ça, c'est à partir du 9 de lundi après-midi. Je pense que ça doit être ça, du 9 mai. Voilà.
Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non, mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Iggy, je t'aime.
Ah, c'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
Oui, on précipite les émissions parce qu'en fait, on discute. On aurait pu rester une heure de plus avec Frédéric pour échanger, mais il est l'heure de retrouver nos quelques bons plans. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a des importants, notamment à partir d'aujourd'hui, vendredi. Enfin, c'est pas à partir d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui et demain, le 6 et 7 mai. C'est le Salon des métiers, de l'emploi et de l'orientation. C'est un forum qui va se passer au hall des expositions à Évreux. Je dis ça parce que nous sommes en plein dans la période où les futurs étudiants ou les étudiants s'orientent, recherchent ou autres. C'est gratuit, bien entendu, hein, comme tout salon des métiers. Allez-y, l'occasion unique de rencontrer des professionnels, de rencontrer les personnes qui s'occupent des formations et de toutes ces scolarités. Ça méritait au moins qu'on y passe quelques secondes. Toujours dans les actualités bruissiennes, il va y avoir un gros événement sur le parc de Trangis ce week-end, samedi et dimanche. C'est le salon des plantes et du jardin durable. Alors, on pourrait se dire, bon, ben, un salon des plantes, il y en a plein dans le coin. Oui, sauf que sur Évreux, ce dimanche, sur le salon des plantes et du jardin durable, c'est Avanis Tanonet qui vient. Alors, qui est cette personne? Eh bien, c'est une chef du peuple Kariri Xoko qui viennent du Brésil, fait partie des peuplades, des tribus qui ont gardé alors ça y est, je perds mes mots, mais une façon de vivre traditionnelle, voilà. Et elle vient sur ce salon des plantes et du jardin durable pour échanger avec les visiteurs. Deux sessions pour échanger, discuter et puis voir un petit peu. Alors la thématique, ça va être les plumes et les oiseaux, l'importance des plumes et des oiseaux dans ces cultures justement amazoniennes. L'occasion d'échanger, entrée libre, une session à 10h30, une à 11h30, c'est dans le cadre d'un événement plus large qui est l'Anthropocène sur Évreux, tout un festival autour de comment aborder le monde. On ne pouvait pas passer à côté, bien entendu, de cet échange, et donc c'est Avanis Tanonet qui est une chef amazonienne, d'une peuplade amazonienne que nous retrouverons. Ça bouscule, ça pousse. Ben, pour les autres, il y aura également un parcours hypnotique à faire dans le cadre des Anthropocènes, mais ça, je vous laisse découvrir. Merci beaucoup, Frédéric, d'être passé par nos micros ce matin. C'était un vrai plaisir d'échanger. Comme on dit, on pourrait échanger pendant des heures.
Oui, c'est vrai. Et puis, je suis un peu bavard, c'est vrai.
Bah, passionné, en fait, hein.
Et oui,
puis,
c'est vrai.
Et puis, quand on a l'album dans les mains, on comprend que tu sois passionné. Je rappelle, Tant que nous sommes vivants de Frédéric Biel aux éditions Futuropolis. C'est disponible à partir de mercredi dernier.
Oui,
donc, voilà,
4,
c'est tout frais. Vous pouvez trouver ça dans toutes les bonnes librairies, bien entendu.
Exactement.
Et chez les spécialistes de BD, bah, là, forcément, hein.
Oui, là, oui, forcément. Là,
immanquable. On te retrouve, comme on le disait, le 20 mai après-midi à BDLib pour une séance d'échange et dédicace avec les lecteurs. Et puis, le soir, à partir de 18h, à BDLib pour une rencontre avec, justement, Anne-Laure Bondou. Merci beaucoup, Frédéric, d'être passé par le micro.
Merci à toi, JC.